Il y a ici quelqu'un dans cette salle qui symbolise peut-être ce qu'est cette sorte de nouveau souffle qui peut exister et contre quoi, croyez-moi, rien ne prévaudra. Au point de vue de la volonté politique et du succès, les majorités ou les minorités, ça n'existe pas. Dès qu'il y a une volonté, qu'elle se coagule et que le peuple est derrière, rien ne peut empêcher sa marche. Cet homme-là, qui n'appartenait pas à nos partis, cet homme-là, qui est sans doute monté trop haut pour ne pas avoir la modestie de se taire sur soi-même, cet homme-là à qui je n'ai jamais osé parler parce que j'étais ou trop jeune ou que je me considérais véritablement comme trop peu de choses, cet homme-là qui sera le dernier orateur de ce soir, c'est Paul-Henri Spaak. Cet homme-là a aussi représenté quelque chose, et vous allez voir comment j'arrive à ce que j'appellerai le symbole final de notre lutte d'aujourd'hui. Cet homme-là, avec Jean Monnet, avec Jean Rey, c'est un des architectes de l'Europe. Ah, ce sont de faux problèmes. Eh bien, ce n'est pas de passé que nous allons parler maintenant. C'est d'avenir. Et je dis simplement, si ces architectes de l'Europe avaient pu réussir plus tôt, peut-être qu'un certain nombre de mauvais coups ne se seraient pas perpétrés contre la Belgique et contre Bruxelles. Mesdames, messieurs, il est un moment, vous savez, où on se retourne jeune, moins jeune, plus âgé dans sa vie. Il y a toujours un moment où on essaye de jauger son existence à la mesure de ce qu'on a fait. Il y a toujours un moment, pas seulement pour sa famille, pas pour ses proches, mais pour soi-même. Et à mesure qu'on avance et qu'on dialogue de plus en plus avec une conscience exigeante, il faut bien se dire que l'essentiel, c'est qu'on n'ait pas raté ce qu'on ait fait dans sa vie pour l'idéal auquel on a été fidèle. Alors vous pouvez être tranquille. Nous sommes ici pour que dans un an, dans cinq, dans dix, à Bruxelles, comme dans la Belgique, on n'ait pas à rougir de ce qu'avant la liberté existait et que nous n'aurons pas tout fait pour qu'elle continue demain.
La parole est au député Lucien Outers.
Mesdames et messieurs, sans vouloir faire des comparaisons trop forcées, je suis tout de même obligé de constater que voilà des années qu'on ne cesse de nous dire que le calme dans ce pays, voire même sa prétendue prospérité, s'accompagne obligatoirement de notre silence devant l'injustice, de l'abandon de nos droits les plus essentiels, du renoncement de nos revendications les plus élémentaires. C'est en effet sur l'autel d'une prétendue réconciliation nationale que l'on nous a déjà demandé de renoncer au recensement. C'est déjà sur l'autel d'une prétendue réconciliation nationale qu'on nous a chassés de Louvain. C'est aussi au nom de l'apaisement public et de la pacification des esprits, drôle de pacification que celle-là, que l'on brime les gens de la périphérie, que l'on rétablit le vote plural à Bruxelles, que l'on rétablit un régime discriminatoire pour cette population d'un million d'habitants, qu'on nous vole, qu'on nous spolie de plusieurs milliards par an, au profit d'une seule région, et cette région, nous la connaissons tous, et c'est toujours la même. Eh bien, je dis, mesdames et messieurs, que si l'arithmétique parlementaire commande que le bonheur de la nation soit toujours au prix de notre effacement perpétuel et de notre abaissement politique au sein des institutions qui nous gouvernent, Eh bien, je dis que ceux qui prétendent restaurer le pays ou même le sauver se font en réalité les artisans aveugles de sa destruction, de la crise grave qu'il traverse et des périls mortels qu'ils lui font encourir. Est-ce que vous croyez très sincèrement que l'analyse qu'on a faite ce soir, que tous les orateurs qui se sont succédés ont fait devant nous ce soir, édictés par je ne sais quel motif de circonstance lié à la conjoncture électorale, mais tous les parlementaires, tous les hommes politiques, à quelque parti qu'ils appartiennent, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, vous déclarent tous aujourd'hui que les lois pour Bruxelles sont mauvaises. Il n'y en a pas un seul qui oserait dire le contraire. Et non seulement qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles sont injustes. Et les autres parlementaires, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils sont en train de vous expliquer que tout au cours des derniers mois, ils ont été trompés, qu'ils ont été bernés. C'est tout de même assez extraordinaire qu'à la veille d'une campagne électorale, et pendant une campagne électorale, vous voyez les parlementaires s'adresser à vous en vous disant « Il faut voter pour nous parce qu'on a été bernés ». C'est tout de même extraordinaire. Eh bien, mais tout de même, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont ces gens-là, qui aujourd'hui avouent avec une candeur et avec une désinvolture dont ils n'ont pas l'air, à mes yeux, de mesurer exactement la portée, eh bien ce sont ces gens-là qui nous demandent aujourd'hui de collaborer loyalement avec des institutions dont ils déclarent eux-mêmes qu'elles sont extrêmement mauvaises. Et ce sont ces gens-là aussi qui maintenant, et c'est ça qui est très important à mes yeux, qui essayent de nous faire croire qu'ils pourront, demain, en négociant au sein des partis, et grâce à l'influence qu'ils y exercent, obtenir plus demain que ce qu'ils n'ont obtenu aujourd'hui, et hier, parce qu'enfin, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Mais absolument rien du tout, en dehors, bien entendu, de leur humiliation et du mépris de leurs adversaires. C'est la seule chose qu'ils aient réellement obtenue. Mesdames et messieurs, ce sont ces gens-là aussi qui, ne reculant décidément devant aucune espèce de contradiction, essaye aussi de faire croire à la population que les choses sont maintenant acquises et que, puisque les chambres ne sont pas constituantes, tout combat maintenant devient impossible et tout combat devient inutile. Et nous savons bien qu'ils ont fait en sorte que le Parlement qui siégera demain ne soit plus un parlement qui ait des pouvoirs constituants et que par conséquent ils prétendent aujourd'hui que l'on ne pourra plus modifier ce qui a été acquis. Eh bien, mesdames et messieurs, à cela je réponds. Est-ce qu'en 1919, le parlement était-il constituant? Cela ne l'a pas empêché d'établir le suffrage universel malgré ce que la constitution de l'époque disait alors. Cela ne l'a pas empêché d'établir ce régime. Pourquoi? Parce que lorsque des lois briment les citoyens, le devoir d'un peuple est de les changer, quelles que soient les circonstances. Nous allons, mesdames et messieurs, tous ensemble, choisir, bien entendu, de ne pas nous soumettre, mais nous allons tous ensemble aussi vous mener à la victoire, et c'est ainsi que le soir du 7 novembre prochain et le soir du 21, nous allons faire comprendre à tous et à chacun que l'œuvre d'un Parlement indigne ne résiste pas à la volonté populaire. C'est cette volonté-là. C'est cette volonté-là que vous avez déjà exprimer ce soir, il faut qu'ils sachent, une fois pour toutes, que cette volonté populaire, que cette marée qui est devant vous et que nous avons mis en marche, rien désormais ne pourra l'arrêter. Et c'est à ce prix, et à ce prix seulement, mesdames et messieurs, que tous ceux qui nous ont fait confiance, que tous ceux qui croient en nous, que tous ceux qui croient en notre fidélité, que tous ceux qui croient en la valeur du combat que nous menons, que tous ceux-là qui aujourd'hui vivent dans l'espoir, vivront demain dans la certitude qu'avec nous, qu'avec les gens qui sont à côté de nous, Bruxelles retrouvera non seulement l'honneur, mais la justice et la liberté.
La parole est à monsieur Paul-Henri Spaak.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler gravement d'un sujet grave. Avant de vous expliquer mon raisonnement, celui qui m'amènera à vous donner un conseil électoral, je voudrais me permettre deux ou trois considérations générales qui me sont inspirées par les réactions qu'a suscité cet article que j'ai publié dans le Soir. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans l'article que j'ai écrit ? Une chose, je crois qu'il fallait un certain courage pour l'écrire, parce que je ne fais pas la lutte en détail, je la fais en bloc. J'ai dit ne voter pour aucun représentant des partis traditionnels. Ne votez pas pour les CVP et PSC, ne votez pas, et j'ai ajouté hélas, et je le pense, pour les socialistes, et ne votez pas non plus pour les libéraux de la nuance des camps ou de la nuance Delforce, Sneyers, Dattenau. Je dis que ces trois partis traditionnels, dans l'ancien Parlement, ont raté la tâche essentielle. Quelle était la tâche essentielle ? C'était de faire ou de donner à la Belgique une nouvelle constitution. Je sais qu'un grand nombre de Belges se désintéressent peut-être du problème, d'abord essentiellement parce qu'on ne leur a pas bien expliqué, parce que volontairement on a compliqué les choses. Mais c'est une grave chose qu'une nouvelle constitution, mesdames et messieurs. C'est le cadre juridique, politique, économique, social dans lequel nous allons être forcés de vivre pendant des années et des années, nous, nos enfants et nos petits-enfants, car on sait que c'est difficile de reviser la Constitution. C'était donc là la tâche essentielle. Et c'était un moment choisi pour créer une Belgique nouvelle, où l'on aurait réalisé non pas la domination des uns sur les autres, mais un juste équilibre entre les Flamands, les Wallons et les Bruxellois. Or, qu'est-ce que le gouvernement aidé par les deux partis gouvernementaux et aussi par les libéraux de M. Descamps, qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Il a fait une constitution qui crée un déséquilibre profond en Belgique, parce qu'il a donné aux Flamands à peu près 95% de ce que les Flamands réclamaient, parce qu'il a dupé les Wallons et parce qu'il a traité abominablement les Bruxellois. Et ça n'a été possible que parce qu'en Wallonie, tous les élus francophones des partis traditionnels l'ont aidé, parce qu'à Bruxelles, les francophones de la liste Van den Buynens l'ont aidé, et parce que, encore une fois, hélas, et dans des conditions auxquelles on a fait allusion il y a un instant avec infiniment de discrétion, certains socialistes ont montré soyons généreux, une coupable hésitation. Les Flamands ont donné satisfaction sur leurs revendications essentielles, l'autonomie culturelle, et c'est eux qui, en réalité, ont appliqué, conçu et appliqué le régime pour Bruxelles. Les Wallons ont été dupés, à mon avis, dans cette révision constitutionnelle, alors qu'ils sont la région déshéritée de la Belgique, ils n'ont rien obtenu. Comment, dit M. Van den Buynen, s'ils n'ont rien obtenu? Ils ont obtenu la parité au sein du Conseil des ministres. Et j'ai commis une erreur, je l'avoue. J'ai dit dans une émission télévisée que la parité avait toujours existé depuis la guerre. M. Van den Buynen a découvert 2 gouvernements sur 14, car je suppose que si dans les autres cette parité n'avait pas existé, il nous l'aurait signalé, 2 gouvernements sur 14 où il y a eu plus de flamands que de francophones. Et il triomphe. L'un de ces gouvernements, c'est celui qu'il présidait. Et à mon tour, je lui envoie une lettre. Monsieur Van den Buynen, vous présidiez un gouvernement où il y avait plus de flamands que de francophones. Oseriez-vous soutenir que ce gouvernement a méconnu les droits de la Wallonie et les droits de Bruxelles? Bien sûr, il n'osera jamais le dire. Pourquoi? Parce que cette affaire de parité au Conseil des ministres n'a absolument aucune importance. Et précisément l'époque où les francophones ont été le plus maltraités, ceux de Wallonie et ceux de Bruxelles, c'est le gouvernement actuellement au pouvoir où il y a la parité entre les francophones et les flamands. Cela prouve que la parité au sein du Conseil des ministres est un leurre. Mais on dit, mais vous avez la sonnette d'alarme? J'espérais, parlant à cette tribune avec quelques députés, qu'ils allaient essayer de nous expliquer ce que c'est que la sonnette d'alarme. Moi, je ne sais pas si vous avez compris, j'avoue que moi, je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris comment le système fonctionnait, et j'ai l'intime conviction que c'est un système inefficace, dangereux, inapplicable. Que si un jour, par extraordinaire, quelqu'un essaie de faire sonner la sonnette d'alarme, c'est la Belgique tout entière qui va s'écrouler d'un coup. Je dis donc que les Wallons ont été dupés. Quant aux Bruxellois, je dis qu'ils ont été affreusement maltraités. Ce régime, ceux qui ont parlé avant moi, vous l'ont déjà caractérisé. Carcan de l'agglomération, commune de la périphérie où la liberté linguistique n'est pas respectée, obliger les communes de la périphérie à entrer dans des associations de communes à majorité flamande. Pour Bruxelles, rétablissement du vote plural. Système de représentation proportionnelle truqué pour le Conseil de l'agglomération bruxelloise. Création, non pas de crèches et d'écoles flamandes nécessaires pour des résultats, pour des questions pédagogiques, mais création de crèches et d'écoles flamandes de propagande, qui arrive à ce résultat, mais qui doit arrêter les gens, les stupéfier, qui arrive à ce résultat de dire que dorénavant, dans l'agglomération bruxelloise, les enfants flamands auront, dans le domaine de l'enseignement, dans l'environnement de l'enseignement, des conditions infiniment meilleures que celles des enfants francophones. Tout ça n'est pas possible. Tout ça est inadmissible. Tout ça doit être sanctionné par le vote que vous allez émettre. Mais ce n'est pas tout. Les résignés auraient peut-être un argument s'ils disaient « c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». Notez bien qu'ils l'affirment, alors que des questions essentielles restent encore en suspens, les fourrons, l'organisation des régions et toute l'application des lois linguistiques. Et moi, je le reconnais, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que je suis maintenant convaincu que cette lutte à Bruxelles entre les flamands et les francophones n'est pas terminée. Et ceux qui vous disent « c'est fini » ne vous disent pas la vérité. J'ai été heureux d'entendre dans cette réunion d'abord parler flamand et puis tous les orateurs dire « notre mouvement n'est pas dirigé contre les flamands, nous ne voulons opprimer personne, ce que nous voulons c'est l'égalité pour tous sans discrimination par l'application d'une démocratie honnête ». Mais il s'est passé un fait qui, à mes yeux, est extraordinaire. On a créé, avec raison, un conseil culturel francophone, un conseil culturel flamand. Et quand j'ai appris qu'il y avait en Flandre un mouvement puissant, dont le rédacteur du Standard se faisait l'interprète, pour mettre le conseil culturel flamand à Bruxelles, je me suis dit, ce n'est pas possible, comment ? Le conseil culturel, c'est un symbole important avec de grandes attributions, de grandes responsabilités pour la Flandre, et on vient le mettre à Bruxelles, dans une ville dont on dit pique-pendre. Pourquoi ? J'étais déjà inquiet, mais je suis devenu beaucoup plus inquiet quand j'ai entendu l'explication. On dit naturellement, ça paraît ridicule de mettre le conseil culturel flamand dans cette ville de Bruxelles qu'il faut dégraisser. Mais pourquoi le mettons-nous à Bruxelles ? Nous le mettrons à Bruxelles parce que Bruxelles est une ville flamande. Parce qu'il y a un siècle, à Bruxelles, la majorité des gens parlaient flamand. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, toujours citation de l'article, des centaines de milliers de nos compatriotes qui ne sont francisés qu'à moitié. Et l'article se terminait par ceci. Bien sûr, ça peut paraître ridicule dans l'immédiat, mais nous travaillons pour l'histoire, et dans l'histoire, tout est encore possible. Tout est encore possible, ça prouve que nous allons être placés devant des affrontements nouveaux, des revendications nouvelles, de nouvelles manifestations, non pas du peuple flamand dans son ensemble, mais de certains impérialistes, et qu'il faut absolument qu'il y ait une force pour nous défendre les francophones et pour discuter sur un pied d'égalité avec les flamands. Le problème qui se pose à vous, c'est d'abord d'exercer votre droit de juger. Eh bien, vous devez juger. Est-ce que vous allez dire à ceux qui disent « voilà la constitution que nous avons faite, voilà la page qui est définitivement écrite, voilà la page des intérêts communautaires qui est définitivement tournée, vous avez bien fait, dans notre jugement vous êtes acquitté, vous ne pouvez pas le faire ». Le vote à Bruxelles, c'est d'abord et avant tout, les circonstances l'exigent, un vote de protestation. Mais c'est aussi un vote de combat. Parce que si par ce vote vous montrez que vous êtes résigné, alors bien entendu vous êtes battu et vous êtes définitivement battu. Si au contraire vous montrez que vous êtes prêt à constituer une force, capable de vous faire entendre, capable de discuter, capable de défendre ici à Bruxelles la création d'une véritable communauté démocratique où personne ne sera discriminé ou opprimé, alors je crois que le dialogue redevient possible. Vote de protestation, mais aussi vote de lutte. C'est ça que vient vous dire ce soir le vieux monsieur que je suis. Luttez, ne vous résignez pas, n'acquittez pas ceux qui ont voulu de mauvaises choses, ou ceux qui les ont permises. Ne votez pas pour les partis traditionnels. Je vous le dis, bruxellois, ne votez pas pour ceux qui n'ont ni sang dans les veines, ni générosité dans le cœur, ni clarté dans l'esprit.